Les volcans. Bonjour, vous êtes sur Altitude FM avec Fridou. Dans les croisières de Fridou, je vous raconte tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les croisières, le côté glamour d'un hôtel sur la mer, les coulisses et l'organisation de ces vacances. Aujourd'hui, je vais vous emmener voir les volcans. Le Vésuve. Quand je suis arrivée à Naples, je ne me sentais pas tellement en sécurité à cause du Vésuve, le fameux volcan qui a détruit Pompéi et Herculanum en 79 après Jésus-Christ. Je me faisais des films imaginant le volcan entrant en éruption et que je ne pourrais rien faire. J'allais quand même visiter Pompéi parce que c'était une bonne occasion de voir une ville romaine. Nous avons pris une autoroute qui dessert toute la plaine de Naples. Le Vésuve en ligne de mire. Le trajet prend une demi-heure avec les bouchons. En arrivant sur le parking, outre les stands de souvenirs, je vis les plus gros citrons que je n'avais jamais vus avant, plus gros qu'une mangue. Au retour, j'allais goûter au jus de citron pressé, très différent du jus d'orange, beaucoup plus acide. Nous sommes entrés dans Pompéi, et la première impression qui me vient à l'esprit fut « Ce n'est pas possible de faire une course-poursuite comme dans les films dans Pompéi. Les voies pavées sont certes larges, mais il y a des passages piétons faits d'énormes pavés très hauts qu'il faut passer avec précaution si on est dans un char romain. » La visite est intéressante. Les maisons et magasins sont presque intacts, car réhabilités pour recréer la cité antique. Nous nous sommes promenés, nous avons eu une idée de la vie d'alors, nous avons vu un chien momifié par la cendre, et toujours le volcan qui nous narguait. J'étais assez contente de repartir, je dois avouer. Je suis allée également à Herculanum depuis la ville de Sorrento. C'est un site différent de Pompéi, même si c'est à une quinzaine de kilomètres seulement. C'est au bord de la mer et en hauteur en même temps. On voit les fondations, les égouts, les catacombes et au-dessus, la ville romaine. Le site est plus petit car il y a eu moins de fouilles et il y a donc encore des parties recouvertes. Mais c'est la même émotion que pour Pompéi qui m'assaillit. Le Vésuve est toujours aussi présent et menaçant. L'élément le plus marquant a été la visite des toilettes publiques, les latrines. C'est une grande pièce dotée de plusieurs sièges où on faisait ses besoins, mais aussi on y discutait affaires. Ils étaient pour les habitants qui avaient moins de moyens financiers pour avoir des latrines chez eux. Que ce soit à Pompéi ou Herculanum, il reste de somptueuses mosaïques murales et sur les sols. Et également la sensation qu'on aurait pu facilement vivre dans ces lieux même s'ils nous semblent rudimentaires par comparaison à notre époque. Ils étaient bien organisés et modernes pour leur époque. L'Etna. Contrairement au Vésuve, l'Etna est très impressionnant, mais ne m'a donné aucune inquiétude. L'Etna est en Sicile. La première fois que je l'ai vue au loin, j'étais sur le bateau. Une colonne de fumée s'élevait au-dessus de lui. Un passager me demanda ce que je photographiais et je lui dis « C'est le volcan l'Etna ». Il était très surpris de cette révélation. Il faut dire que j'ai une carte dans la tête, plus celle qu'on peut voir sur le canal TV du bateau. Et je traque chaque paysage à absolument voir. Une autre fois, je me suis levée à 5h du matin pour le voir, l'admirer même éteint depuis le bateau. Avec le lever du soleil, c'était simplement merveilleux. Lors d'une escale à Messine, je suis allée sur le volcan. Il culmine à 3339 mètres et nous y sommes montés en bus, bien sûr. Nous n'avons pas pu aller sur le sommet, car il fallait au moins une heure de plus pour y aller à pied et nous étions avec des personnes à mobilité réduite. Mais nous avons marché sur un des petits cratères, pendant que les autres prenaient un thé et des photos. Petit cratère ou sommet, une éruption avait eu lieu un mois auparavant. À chaque fois que je passe à côté, il y a une éruption avant ou après. Le Stromboli. Par contre, pour le Stromboli, j'ai pu le voir en éruption une fois. Comme pour l'Etna, on passait avant ou après à chaque fois. Nous n'avons jamais eu de visite organisée de l'île. Nous le voyons depuis le bateau et je reste sur le pont jusqu'à ce qu'il disparaisse. La fois où je l'ai vu en éruption, il y avait une course de charité organisée par l'équipage. On devait faire 10 tours du pont promenade et l'argent de la course à pied allait à une œuvre de charité. En prime, on nous donnait un t-shirt comme témoin de notre participation. J'ai participé plusieurs fois à cette marche, mais cette fois-ci, le Stromboli était en éruption. Le Stromboli est sur une petite île qui fait partie des îles éoliennes. Elle a été formée par le volcan qui la domine de toute sa hauteur. Il y a environ 500 habitants et il est très étrange de voir des habitations au loin alors que le volcan prend possession de toute la place dans le paysage. Je regardais les nuages de fumée qui s'élevaient et parfois je pouvais voir de temps en temps des étincelles que le volcan crachait. Je suis restée sur le pont jusqu'à ce que je ne puisse plus voir le Stromboli. Les volcans me fascinent et je ne peux m'en détacher des yeux. Tenerife. À Noël 2019, je suis montée sur le mont Teide, à Tenerife, qui culmine à 3750 mètres. Le Teide a connu sa dernière éruption en 1909, mais est sous surveillance constante. Il faut au moins 1 heure en bus depuis le port pour y arriver. On traverse une forêt d'eucalyptus, puis, plus on monte, plus la végétation se raréfie. On passe devant l'observatoire astronomique et j'ai d'ailleurs raté une excursion de nuit pour voir les étoiles un été auparavant, à cause du temps. Le bus arrive au musée du volcan, où on fait la queue pour prendre le téléphérique qui arrive un peu avant le sommet. Nous n'avions pas le temps de faire la marche pour le sommet. J'ai donc marché un peu autour du site panoramique et j'ai marché dans la neige à Noël. Malgré les avertissements des organisateurs, des personnes sont montées en short et t-shirt et il faisait froid. Ils ont dû acheter des polaires pour pouvoir monter. C'est une constante. On prévient qu'il faut de la crème solaire, des pulls, des chaussures de marche, mais les gens sont en mode vacances et ne pensent pas qu'à 3750 mètres, il fait froid. Car ils ne sont peut-être jamais montés sur une montagne auparavant. Même si toutes les îles Canaries sont volcaniques, Lanzarote reste la plus impressionnante dans ce domaine. Un champ de volcans se dresse au centre de l'île et on peut même faire cuire du poulet avec la chaleur dégagée par les volcans dans le restaurant El Diablo créé par César Manrique. Parfois, un volcan peut se réveiller et les traces de coulées de lave donnent une impression de paysage lunaire, un peu comme à la plaine des sables sur l'île de la Réunion. Le piton de la Fournaise à La Réunion. Pour aller au volcan, il faut monter à la plaine des Cafres, où se trouve un musée avant la route vers le volcan. Cette route mène à la plaine des Sables, vaste étendue lunaire aux reflets mordorés et rougeâtres, et où on aurait pu tourner la planète des singes. On y trouve des petits pitons, signe de l'activité volcanique plus ancienne. Avec ma sœur, on s'est d'ailleurs embourbé sur une route qui était interdite et heureusement, un ami a pu nous sortir de là. Au bout de cette plaine, on arrive au bord de ce qu'on appelle l'enclos. Il s'agit du haut des falaises qui surplombe une caldeira de 10 mètres de diamètre. Et le piton de la Fournaise s'est développé dans cet univers. Il culmine à 2600 mètres et c'est un volcan actif. On descend dans l'enclos par un chemin taillé sur le bord, accessible d'une partie de la falaise. On arrive dans la caldeira, dont le sol est transpercé de crevasses et de pierres volcaniques et d'anciennes coulées de lave. Des pitons d'anciennes éruptions pimentent le paysage. On peut monter dessus et se promener à l'intérieur. Un chemin de taches blanches que le petit poussé aurait pu tracer conduit vers le sommet du piton de la Fournaise, un gros massif volcanique au cœur de la caldeira. La randonnée dure 7 heures. Il faut être équipé pour le froid et la pluie et avoir du courage, car si la marche a l'air facile, elle est difficile et rendue dangereuse à cause du brouillard qui peut tomber à tout instant. Depuis l'enclos, on peut voir la mer au loin par beau temps. J'ai eu la chance de voir une éruption de près, c'est-à-dire à 20 mètres du petit cône qui crachait des jets de lave pas trop haut, d'après mes lointains souvenirs, ainsi qu'une coulée de lave à côté. Nous avions fait la randonnée une semaine auparavant et nous avons dû retourner pour voir cette éruption magnifique. Nous étions bien équipés car il pleuvait, alors que des inconscients étaient venus en tongs et shorts, sous la pluie et le brouillard. Ceci dit, nous fûmes vite réchauffés par la chaleur de la lave. Nous étions très près et pourtant, mon père avait voulu se rapprocher encore plus de la lave. Il a dû revenir rapidement tellement il faisait chaud. Je suis sûre que ses semelles ont fondu. Nous sommes passés en première page du journal local et si nous avions pu filmer l'éruption, nous aurions entendu « Passe-moi le camembert ou passe-moi le pain » car nous avons tous mangé devant ce spectacle grandiose de la nature. Le bruit de l'éruption était aussi spécial comme un rugissement venu des entrailles de la terre. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi chaque mercredi à 15h05 dans les croisières de Fridou. Au revoir !